Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
Alors, avant de commencer cet épisode, j'ai envie de vous parler de la conférence GreHack parce que je suis au comité de programme de cette conférence. Et pour en parler, j'ai invité Niche qui est dans le staff d'organisation et qui va nous dire quelques mots.
Oui, bonjour. Merci Nicolas pour le temps que tu nous accordes encore une fois cette année. GreHack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une conférence de cybersécurité basée sur Grenoble. Elle est internationale, donc tout se passe en anglais, ce qui est un peu différent des autres conférences françaises. Le vendredi, on a des conférences toute la journée sur divers sujets techniques. Et le soir, des workshops, en fin d'après-midi, des workshops qui sont gratuits sur divers sujets aussi. En général, on essaie de faire un petit social event ou un petit truc le soir. Et le lendemain, en journée, on a un CTF toute la journée qui se passe du coup en journée comparé à d'autres conférences où ça peut se passer la nuit. Donc on a le temps de se reposer entre les deux.
La légende dit qu'il y a même eu des karaokés pirates à GreHack.
Oh oui, il y a eu beaucoup de choses à GreHack. Parce que oui, la conférence existe depuis 2012, donc on va faire la 13e année cette année, qui se déroulera d'ailleurs le 28 et le 29 novembre.
Donc est-ce que le CFP est encore ouvert ?
Oui, le CFP sera normalement ouvert jusque début juillet. Vous pouvez soumettre divers papiers pour des conférences ou même des workshops. Nous cherchons des speakers et des workshoppers pour animer cette conférence, parce que sans eux, il n'y a pas de conférence.
Parfait, bah donc grehack.fr/CFP. Merci beaucoup Niche.
Merci à toi.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un outil open source qui s'appelle Cartographie avec Jérémy Chapeau. Bonjour Jérémy.
Bonjour à tous.
Pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Christophe Renard.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Et Paul Amar.
Bonjour.
Alors Jérémy, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Avec plaisir. Alors, je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans. Je suis tombé dans l'informatique et la cyber jeune, autodidacte, parce que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé par les armées, j'étais officier de marine. J'ai servi sur les bateaux, puis sur les sous-marins. Et à l'issue de mon temps sur les sous-marins, j'ai eu l'occasion de rejoindre une équipe de Red Team pour le ministère des armées. J'ai été sur Paris pendant quelques années. Ensuite, j'ai décidé de retourner au monde civil et j'ai fait 2 années dans une petite entreprise qui fait du SOC managé pour les PME, donc petites et moyennes entreprises. Et à l'issue de ça, ma dernière expérience, c'est chez Resilience, donc une start-up en santé, et on faisait de la télésurveillance pour les malades du cancer. Donc j'ai quitté Resilience en mi-avril dernier et en ce moment, je suis en phase de transition. Voilà. On cherche d'autres projets, donc je prends un peu plus de temps pour participer aux projets open source et les faire connaître, surtout en France, en particulier Cartographie.
Alors parfait. Et donc, dans quelles circonstances le projet Cartographie a été créé ?
Donc Cartographie, c'est un projet qui a été créé par les équipes sécurité de Lyft, une entreprise américaine concurrente de Uber. Donc un projet interne au départ, c'était ouvert en open source en 2019. Et fin 2024, ça a été cédé à la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation. C'est un des groupes de la Fondation Linux. Moi, j'y suis depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, presque 3, en tant que contributeur et mainteneur du projet.
Et ça répond à quelle problématique, l'outil Cartographie ?
Alors ça va faire un peu la palissade, mais ça répond à des besoins de cartographie des SI. Donc l'objectif, c'est d'aller collecter tout ce qui est infrastructure cloud, IT, des applications SaaS, même éventuellement du on-premise, d'aller via les API.
Pour ceux qui ont fait de l'IT, est-ce que tu peux dire c'est une super CMDB visuelle ? CMDB, si tu veux, c'est le terme que tous les mecs qui ont été obligés de faire des formations ITIL ou de l'ISO 20000 ou ces machins-là connaissent tous. Hein.
Oui, ça répond vraiment à ce besoin-là. Premièrement, de l'inventaire de toutes les ressources, mais en les représentant sous une forme graphique. Et donc, avec le graphe, l'avantage qu'on a par rapport à tout ce qui va être un inventaire très statique, très tableau, c'est les relations entre tous les éléments. Au-delà de ça, l'objectif, c'est d'aller aussi aller trouver des liens entre les éléments au-delà de chaque fournisseur, d'aller trouver les liens entre chaque fournisseur.
Et quand tu dis ça, ça me fait penser à du blowdown. Par exemple, qui va te faire de l'analyse avec de l'Active Directory. Est-ce que l'outil cartographie est venu de ce constat-là.
Oui, mais tu ne veux pas comparer un truc qui fait juste Active Directory de quelque chose qui contient tous les composants du système d'information.
Je ne vais pas dire que c'est inspiré d'eux, mais oui, ça, c'est un peu dans la même lignée, dans le même esprit. Mais vraiment d'aller chercher, comme disait Hervé, toute la partie, une partie très très large. Alors on essaie de multiplier le nombre de sources. C'est très orienté fournisseur américain aujourd'hui, malheureusement. Le projet pas très connu en France, d'où l'exercice aujourd'hui. Et oui, d'aller chercher... alors aujourd'hui, on a beaucoup de la AWS, du Azure, du GCP. Moi, quand je suis arrivé chez Raison, je l'ai utilisé et j'ai développé mes propres modules pour aller sur sur OLAPI OVH, sur Clever Cloud. On n'utilisait pas Scaleway, mais ça pourrait très bien marcher sur Scaleway aussi. Et d'aller aussi, quand on a des petites structures, on a des problèmes avec tout ce qui est gestion des identités. Donc moi, j'utilisais beaucoup pour la gestion des identités, aller chercher les comptes sur GitHub, aller chercher les comptes sur LastPass pour le gestionnaire de password. Enfin, vraiment tout chercher... Tout avoir dans un seul système, dans une seule base, et on peut commencer à faire des requêtes vraiment, vraiment sympas.
Et quel est le niveau de profondeur? Quelle est la granularité? Et quand tu dis, voilà, j'ai créé par exemple, entre guillemets, un provider Clever Cloud, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est complexe? Et voilà, quel est le niveau de profondeur d'un point de vue ressources que tu vas arriver à cartographier avec l'outil cartographie?
Ça va dépendre de la maturité de chaque module, parce que l'outil est vraiment très modulaire, donc on a un module pour AWS, un module pour, par exemple, pour Clever Cloud. En général, on va commencer avec du très basique. Moi, surtout, j'aime bien, comme je commence à maîtriser un peu l'outil, à aller chercher plein de modules, faire les basiques, faire vraiment tout le squelette, parce que ça rassure les gens de pouvoir contribuer sur quelque chose qui existe déjà, juste rajouter un peu de profondeur, en comparaison à aller mettre en place le module initialement. Mais donc au départ, ça va être très simple. Je prends Clever Cloud, on va avoir des notions juste d'instance et de base de données. Et par itération, après, on va aller chercher les snapshots. Ils ont un mécanisme de publication sur les SHA-1 de Git, ce genre de choses. Donc on peut aller chercher sur quelle branche, sur quel commit le déploiement s'est fait. Et donc petit à petit, on va chercher cette profondeur. Et en fait, plus on va en profondeur, en général, plus on peut commencer à avoir des liens et à pouvoir connecter les graphes entre eux. Une fois qu'on a les branches et les commits, on peut commencer à aller mapper l'instance GitHub et l'instance Clever Cloud, parce qu'on a les deux dedans et qu'on a le SHA-1 qui fait le pont entre les deux mondes. Et donc, on peut commencer à avoir les deux choses. Et donc, avoir des vulnérabilités.
Ça répond à quel type de question? Enfin, je veux dire, tu prends par exemple un Log4j, tu as envie de savoir quels sont tous tes serveurs qui sont exposés sur Internet, qu'on la lib, Log4j dans telle version, est-ce que ça permet d'y répondre? Est-ce que tu vas jusqu'à, on va dire, l'utilisation de la SBOM? Si on va dans ce sens-là, quelles sont les questions qu'on peut se poser?
Alors, il y a très clairement des questions de gestion de vulnérabilité. Là, par exemple, on est en train de travailler sur l'intégration de Trivi dedans pour tout ce qui est conteneurs. Donc oui, on peut aller chercher de la vulnérabilité dedans. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles... Il y a deux raisons principales pour lesquelles Lyft ont développé cet outil en interne initialement. C'est la gestion de vulnérabilité et la gestion des identités. En fait, pour les vulnérabilités, ça leur permettait d'aller prioriser les vulnérabilités en fonction de est-ce que le microservice tournait en production, tournait pas en production, est-ce qu'il tournait sur des données sensibles. Ça peut permettre d'aller faire de la priorisation de risque comme ça. Et en fait, le fait d'avoir tous ces liens, il n'y a pas besoin. Ça limite le besoin en connaissances fonctionnelles, vu qu'on a, on a ce schéma qui nous dit, OK, ce service-là est déployé en production, il touche à telle base de données qui est sensible. Enfin, on n'a plus besoin forcément d'avoir autant de connaissances métiers. Connaissances qui est des fois dure à acquérir. Moi, je l'ai vécu chez Resilience, quand on a beaucoup de microservices, quand il y a des acquisitions d'entreprises, on est content de pouvoir connecter et d'avoir tout de suite une vue macro et de descendre en connaissances au fur et à mesure du besoin.
Du coup, cet outil doit pouvoir se connecter sur tous les comptes de l'organisation, ou enfin sur tous les services de l'organisation. Qu'est-ce qu'il faut lui donner comme compte pour faire ça? Est-ce que c'est pas un truc qui doit contenir tous les creds sensibles?
Alors, autant que possible, pour chaque module, on précise les procédures pour aller donner quelles clés données. On essaie de minimiser à chaque fois les privilèges pour avoir. Il n'y a que de la lecture. L'outil ne fait aucune modification. Il n'y a pas de remédiation automatique. Ça pourrait être une piste d'évolution dans le futur, hein, mais tout de suite, on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus sensibles. Moi, je suis jamais très très fan de l'automagique. Donc oui, des clés en lecture seule. Après, on peut très bien les scoper à certains périmètres. On peut les. Voilà, c'est à la diligence de chacun.
Moi, je connais des RSSI qui se retrouvaient avec plus de microservices que d'employés. Et donc, chaque développeur chaque chef de projet ou je sais pas quoi. Putain, mais il prenait des microservices à droite et à gauche, c'était un véritable cauchemar. Et donc, je pense que ce genre d'outil, bah oui, il lui donne tout l'Active Directory pour qu'il aille essayer de retrouver ou de fouiller. Alors, je sais pas si c'est possible, ça. Retrouver tous les microservices qui ont été acquis quelque part et sans lesquels l'appli qui est vendue au client final, elle marche plus.
Moi, c'est comme ça que j'ai pris pied chez Résilience, notamment quand on faisait les acquisitions, quand on a fait 3 acquisitions quand j'y étais, un nouveau périmètre du GCP à l'époque, qui était nouveau pour moi. Bon, c'est connecté sur GCP, ça permet d'avoir la vision, tous les services qui tournent, effectivement. Ça nous donne des instances, pas forcément les dépendances entre elles, mais comme les services étaient authentifiés, qu'on avait un keycloak pour ça, le fait de se connecter à l'API keycloak et d'avoir tous les tokens de service me permettait de mettre dans le graphe telle instance communiquée avec un tel, donc on tord un peu l'utilisation, c'est-à-dire qu'on suppose, comme il y a authentification, comme il y a un lien d'authentification entre des services, on suppose qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Je pense que la supposition est pas trop farfelue, mais oui, alors c'est un peu détourné, mais oui, on peut aller chercher ce genre d'infos.
Moi, je pense que c'est très très utile. Il y a plein de RSSI qui ont ce problème, et je pense que les outils commerciaux sont pas forcément à leur portée.
Ben c'est pour ça que je suis arrivé dans le projet initialement. Start-up, on n'a pas forcément des fonds illimités. Les solutions sur étagère coûtent parfois très cher. Et souvent, elles sont soit, je veux dire, mono-fournisseurs.
Oui, elles sont moins riches. Parce qu'en fait, en open source, il y a toujours le mec qui va rajouter le truc dont lui, il a besoin.
C'est ça. Et puis, elles sont souvent très orientées solutions américaines. Si vous voulez auditer votre configuration AWS, votre configuration GCP, il y a plein de choses qui existent sur le marché. Quand vous voulez commencer à auditer des solutions des fournisseurs français, ça devient plus compliqué.
Et est-ce que c'est restreint aux fournisseurs de cloud ou
Non, parce qu'on a par exemple, il y a Okta aujourd'hui qui est dedans. Pour tout ce qui est identité, on a livré Anthropic et OpenAI pour tout ce qui est gestion des projets, des clés. Là, on a une pull request en cours sur Airbyte. Parce que je trouve que l'approche data est très intéressante. C'est-à-dire qu'on a des fois, moi c'était le cas chez Résilience, on pouvait avoir des bases de données en production chez un fournisseur et puis avoir des sauvegardes qui sont faites sur un S3 chez un autre fournisseur ou des réplications de base. Et là, ça devient vite compliqué de savoir ce qui se passe. Et donc, on travaille à pouvoir mettre Airbyte pour être capable de dire, OK, telle base, elle est répliquée en partie, partiellement, enfin, peu importe ce qui est fait dedans, sur telle autre. Et on commence à avoir des choses intéressantes, même en termes de respect du RGPD. Alors nous, c'est des données de santé, donc on avait en plus toute la partie HDS à gérer. Le but n'est pas juste de faire une représentation graphique, c'est vraiment de structurer la donnée en graphe. Après, ça peut s'adapter à pas mal de cas d'usage. Donc il y a un petit coup d'entrée quand même pour maîtriser le... Si on veut faire autre chose que des choses très simples pour aller maîtriser le langage de requêtage des bases graphes, c'est Cypher qui est porté par Neo4j. Il y a un petit coup d'entrée si on veut aller commencer à faire des requêtes complexes. Mais je pense que ça peut valoir le coup.
Et donc, ça répertorie les services. Et Hervé parlait tout à l'heure de répertorier aussi les utilisateurs. Est-ce que tu peux mapper les utilisateurs et les services? Dire, ben, tiens, par exemple, cet utilisateur utilise ces services, etc.
Voilà, c'est très avancé sur la partie AWS, toute la résolution des politiques d'accès, un peu moins sur d'autres, on est en train de travailler dessus. Mais oui, tout ce qui est résolution d'ACL, enfin, tout ce qui n'est pas accès direct, en fait, la personne appartient à un tel groupe qui appartient à un tel, donc elle a accès. Ça, sur AWS, c'est plutôt complet, sur les autres, pas encore. Voilà, ça dépend des besoins des contributeurs et le temps que les gens veulent bien passer à nous aider à implémenter ces fonctions-là.
Et ça couvre tous les outils de développement, genre GitHub, etc.
Alors aujourd'hui, on a principalement GitHub. Les autres n'ont pas été faits. Après, moi, je sais que de mon côté, pour aller plus vite, comme ça reste assez simple, hein, derrière, ça reste un modèle de graphe et puis un script qui vient interroger une API et ingérer le modèle. C'est pas Rocket Science, hein, ça reste très simple. On arrive maintenant, en ingérant les définitions OpenAPI, à générer très très vite des nouveaux modules, au moins tout le squelette, et donc on va beaucoup plus vite pour déployer des nouveaux modules. Donc si demain, des personnes veulent, travailler sur... Alors Cloudflare, on a tout juste commencé, mais ça va assez vite d'implémenter des nouvelles briques.
Et je vous entends parler donc de graphes. Est-ce que vous souhaitez aller jusqu'à définir, pourquoi pas, une ontologie?
C'est exactement la RFC sur laquelle j'ai travaillé il y a 15 jours, 3 semaines. On est dessus, donc... On se pose encore la question sur quel framework. On partirait plutôt sur Defend, du Mitre. On est vraiment resté sur des nœuds très proches du fournisseur. C'est-à-dire qu'on est resté proche de la définition chez le fournisseur parce que ça va plus vite pour développer les modules. Ça permet aux personnes qui ont personne qui travaille sur AWS, qui veut aller auditer AWS, bah, au moins, elle retrouve les ressources, elles ont le même nom, il n'y a pas ce coût d'aller apprendre une nouvelle structure de données. En revanche, ça nous limitait énormément sur l'analyse transverse. Donc, on est en train de travailler sur une ontologie et on voudrait se baser sur une existante autant que possible pour pouvoir rendre ça interopérable après avec, pourquoi pas avec des SIEM de manière plus native, avec d'autres outils. Mon rêve, moi, ce serait de pouvoir faire de la projection de l'attaque passe dedans et d'aller chercher vraiment des choses intéressantes, mais on en est encore un peu loin, hein, en toute honnêteté, mais c'est un vœu pieux.
Est-ce que vous pouvez expliciter ce qu'est une ontologie ?
Alors, je ne vais pas être le meilleur expert pour expliquer ce que c'est, mais l'idée, c'est d'aller mettre derrière une sorte de généralisation, c'est-à-dire qu'on va avoir des instants... chez AWS, c'est EC2, je crois que c'est Compute Instance chez GCP, ça va être un pod dans Kubernetes quand on est plus sur du on-premise. Et en fait, ces trois objets, quelque part, bah, c'est pas la même chose, mais c'est un peu le même concept intellectuel. Donc, dans une ontologie, on va les regrouper dans un seul concept. La même chose avec un utilisateur, des comptes, on va avoir des comptes, on va avoir un utilisateur qui a des comptes, et que le compte, ce soit un compte AWS, un compte Google, un compte sur Okta, c'est le même objet réel. Et donc, ça nous permet derrière d'aller faire des analyses beaucoup plus puissantes et génériques. Et notamment, comme on travaille aujourd'hui sur un jeu de requêtes qu'on fournirait aux utilisateurs pour aller faire de l'audit, faire ces requêtes de manière générique sur une ontologie, ça permet de s'abstraire des, j'espère, 200 intégrations qu'on rajoutera dans les prochains mois. On n'est pas obligé de réécrire ce jeu d'analyse pour chaque outil.
L'ontologie, c'est d'avoir des concepts génériques qui vont se décliner chez chaque fournisseur.
Exactement, tout en restant méta.
Méta.
En fait, le principe, c'est d'avoir une grammaire, une syntaxe, un vocabulaire qui soit indépendant de ceux utilisés par les fournisseurs, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre du cloud où c'est abominable avec des changements commerciaux très réguliers, pour ne pas citer des trucs en ID par exemple, mais à peu près tous le font. Et donc, si on a une possibilité de manipuler les concepts indépendamment, eh bien, on a la possibilité d'écrire des règles ou d'avoir des rapports qui soient indépendants de la mode commerciale de nommage du moment sur le service. Ce qui est très intéressant. Tu disais une chose qui m'a intéressé, parce que donc moi, je fais de la réponse incident et on fait beaucoup de cartographie, Active Directory ou de l'Azure AD ou des choses comme ça, enfin de l'Entra ID, justement pour trouver des chemins de compromission potentiels ou exploiter, pour trouver des changements. Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui utilisent cartographie pour ce genre de choses, justement sur des services qui seraient pas, enfin qui soient autres que la base d'identité AD ?
Alors oui, je sais que Lyft le faisait, hein, ça c'est sûr. Alors, d'autres entreprises, je ne sais pas lesquelles acceptent d'être citées ou pas, donc je vais me restreindre au moins à Lyft pour l'instant. C'est vraiment utilisé dans les deux cas, hein, de manière très classique d'audit pour aller détecter des chemins qu'on ne voudrait pas, des appartenances à des groupes, des permissions trop larges. Et c'est aussi utilisé, moi je l'utilisais par exemple dans mes alertes chez Resilience, où si j'avais une alerte, j'allais faire quelque part de l'enrichissement automatique pour dire « Ok, c'est tel utilisateur qui a fait l'action sur tel service ». Et avec le graphe, on peut aller chercher de l'information. Qui est cet utilisateur? C'est quoi son environnement? À quel groupe il appartient? Qu'est-ce qu'il peut faire? Sur quel outil? Où est-ce que ça pourrait se propager si effectivement c'est son compte à lui qui est programmé? Donc, en réponse à un incident, c'est hyper intéressant.
Justement, en pensant à ce même genre de contexte, il y a possibilité de faire le pivot entre donc les concepts des différents services cloud, que ce soit la gestion d'identité, des IDP, des machins, des protocoles d'infra, donc les droits sur des infrastructures et des droits locaux, par exemple, est-ce que je pourrais les rapprocher des droits de mon orchestrateur, des droits d'utilisateur système, de machine qui porte des secrets sur mon infrastructure? Il y a moyen de faire des pivots comme ça dans l'outil?
Alors aujourd'hui, surtout sur la partie utilisateur, c'est quasiment le seul pivot, c'était un peu la partie test qui avait été faite, le premier pas vers l'ontologie. Il y a eu ce concept d'humain qui avait été mis en place, c'est-à-dire que tous les comptes sont rattachés à un humain qui permet après de faire le pivot entre les différents comptes et donc les différents groupes. C'était vraiment la première itération. Mais oui, moi chez Resilience, j'avais par exemple aussi intégré la partie... SIRH, toute la base SIRH, donc ça me permettait d'avoir les employés, les dates de début, de fin, quand on avait des externes, dans quel département ils appartenaient. Et donc on peut aller faire des mappings entre, ok, deux personnes appartiennent à un même département, mais n'ont pas du tout le même jeu de permission, ou toutes les personnes de ce groupe Google sur GitHub, elles appartiennent aux mêmes équipes, sauf une personne qui appartient pas à la même. On peut aller faire ce genre de choses. Et cartographie a d'ailleurs une partie... très light aujourd'hui, mais de détection de drift, c'est-à-dire qu'il y a une requête qui est faite à un instant T, elle peut être refaite par exemple toutes les semaines, et on va mesurer le delta entre, je sais pas moi, une liste de propriétés, différents chemins, et dire, OK, bah là, il y a plus de personnes maintenant qui sont admises sur tel service. Et est-ce que c'est normal? Oui, bah, je mets à jour mon état de référence et je passe à autre chose. Ou non, bah, faut que j'y remédie.
Et ça me fait penser à du process mining avec des solutions propriétaires qui peuvent permettre de faire ça, en fait, hein, c'est-à-dire de regarder des états et de se dire, bah, là, je me rends compte, tiens, que 80% des gens utilisent le process classique, j'ai 20%. Est-ce que tu penses que c'est une suite possible pour ce projet? De faire vraiment du process mining et dire, bah, tiens, là, je détecte qu'il y a des comportements qui ne devraient pas atterrir, et faire de la non-conformité. Est-ce que c'est une possibilité ou non, peut-être pas tout de suite?
Une des pistes, mais c'est très lointain, c'est même pas un projet, c'est une fois qu'on a cet état configuré, c'est d'aller au-delà de juste chercher les API, c'est d'aller chercher tout ce qui est partie log, en fait. Ingérer les logs et avoir un deuxième type de relation entre les nœuds. On peut avoir une relation entre un utilisateur et un objet, dire il a le droit d'y accéder. Ça, c'est un état de fait, c'est la configuration qui le dit. Et d'avoir ensuite, par ingestion de log, un autre type de relation qui est cette personne se connecte, cette personne a l'habitude, avec des métriques. Après, je ne sais pas, ça peut être des matrices d'accès dans le temps. Et on arrive sur du comportemental et d'aller détecter des relations qui existent mais qui sont jamais utilisées, ou au contraire, des relations qui sont utilisées de manière pas... de manière dont on ne souhaiterait pas. Enfin, il y a plein de choses qui sont faisables. Ça demande encore beaucoup de travail, mais je pense que c'est une piste qui est vraiment intéressante à creuser.
Si ma cartographie, je l'ai faite une fois, comment est-ce que je la fais vivre? Il faut que je reprenne des snapshots des informations, ou il y a moyen de le faire incrémentalement?
Aujourd'hui, on ne gère pas l'incrémental. C'est vraiment du snapshot à chaque fois, mais par fournisseur. Donc, c'est possible de se dire... ça peut être par instance même, voilà, la production elle bouge pas si souvent, je la fais une fois par semaine. En revanche, cette nouvelle instance qui a un nouveau produit, je veux la faire tous les jours. On peut décorréler les modules, et il y a un mécanisme à chaque fois de dernière vue sur les nœuds, qui fait si il a été exécuté hier, que je le réexécute aujourd'hui, tous les nœuds qui ont été vus hier mais pas aujourd'hui sont supprimés de la cartographie. Il n'y a pas de notion de temporalité, on ne garde pas une temporalité dans le graphe, c'est vraiment un snapshot à l'instant T.
Oui, parce qu'on pourrait imaginer de faire un film de l'évolution du graphe.
Ça, c'est un peu pour ça qu'avait été mis en place la partie de détection de drift. Mais oui, ça va être uniquement sur des sous-ensembles qu'on a souhaité observer. Il n'y a pas de... Mais ça pourrait très bien, parce qu'on pourrait imaginer faire le... Alors, l'outil ne permet pas de le faire, mais comme c'est dans une base de données, rien n'empêche de faire un snapshot de la base de données, d'aller faire, et puis ensuite de faire des comparaisons. Mais ce n'est pas prévu dans l'outil aujourd'hui, en tout cas.
Mais ça reste du pseudo-temps réel.
Non, on va plutôt être sur de la synchrone. Ça dépend vraiment de la fréquence à laquelle on met... Il n'y a pas une connexion en permanence avec l'API. Ça va être à chaque run, donc...
Quand tu parles de l'outil, concrètement, si je veux le déployer, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie?
Alors aujourd'hui, il est distribué sous deux façons. Donc c'est du Python, tout est fait en Python. Donc il y a une librairie Python dans les repos officiels et une image Docker avec un Docker Compose. Donc au choix, soit un Docker Compose, soit le Docker. Les plus grosses structures, elles l'utilisent même en tant que librairie. C'est-à-dire qu'elles ont... quelque part refait leur... ils ont incorporé ça dans d'autres outils qu'ils ont en interne ou dans d'autres choses, donc c'est vraiment plus utilisé en tant que librairie. Mais voilà, les trois modes fonctionnent. Un Docker Compose, ça va très vite au départ pour tester.
Et il faut un back-end de stockage, j'imagine.
Dans le Docker Compose, il y a une base Neo4j en local qui peut être faite. Après, pour tester, je sais que sur leur partie cloud, ils ont un free tier qui est très limité, mais pour l'époque, ça suffit très bien. Il y a un seul compte qui a les droits lecture-écriture, il n'y a pas possibilité de faire d'autres comptes et tout, donc c'est pas du tout prêt pour de la production, mais pour des tests en local, ça le fait très bien. Et après, au final, comme c'est des snapshots, chez Raison, je l'utilisais dans une base locale, et bon, bah, s'il y a tombé, bah, je refaisais mon snapshot, j'avais pas un gros besoin de fiabilité sur cette base-là, donc ça restait acceptable.
Et ça fait 2 ans que tu es sur ce projet, qu'est-ce que tu fais exactement dessus? Est-ce que tu es un committer officiel?
J'ai commencé au départ les premiers commits par ajouter des modules. J'ai gratté un peu au fur et à mesure comment ça se passait autour. Donc maintenant, je fais de la revue de PR. J'ai passé pas mal de temps récemment à faire du ménage aussi dans tout ce qui était un peu code, un peu revoir les CI qui étaient un peu obsolètes. Je touche un peu à tout maintenant.
Et de quoi vous avez besoin?
De temps.
Dans ce cas-là, ça veut dire que tu as besoin de plus de contributeurs.
C'est ça. Alors, on commence à avoir pas mal de contributeurs. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on en a très peu en France. Aujourd'hui, on a beaucoup de contributeurs aux US, on arrive à avancer, mais du coup, on avance beaucoup sur tout ce qui est fournisseurs US, fournisseurs qui sont très utilisés là-bas. Et je trouve ça dommage parce que je pense vraiment que ça peut être une bonne alternative. On parle beaucoup de souveraineté en ce moment, c'est tout le monde a ce mot-là un peu sur les lèvres. Et je trouve que l'open source, c'est quand même le meilleur moyen de se garantir ça. On s'affranchit de beaucoup de choses. S'il y a des gens qui se sentent...
Mais dans d'autres pays d'Europe, c'est la même situation ou il n'y a vraiment que la France ou il n'y a que toi ?
Alors non, c'est très américain, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres Européens dans les contributeurs. Et je sais pas si c'est une appréhension ou...
Voilà, donc appel aux auditeurs, allez voir Cartographie et participer, et puis aussi beaucoup plus d'utilisateurs, j'imagine.
Oui, plus on a de retours, plus ça nous permet d'améliorer l'outil. Voilà, il y a le Slack qui est ouvert aussi sur la CNCF, donc on répond avec plaisir, même aux gens qui ont besoin d'aide ou qui se posent des questions pour déployer les premières fois. Il y a pas mal de monde qui est actif, et même des gens qui le déploient en production, je pense notamment aux équipes de Lyft qui le déploient en production depuis 4-5 ans, qui sont pas avares de conseils ou de retours quand il y a besoin de déployer, donc il ne faut vraiment pas hésiter.
Ok, avant de conclure, est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué et dont tu souhaiterais parler ?
Une des parties qu'on teste aussi en ce moment, alors je sais que les avis vont être très divisés dessus, ça dépend de pro-IA, pas pro-IA, on travaille énormément aussi sur la partie IA. La base Neo4j fournit un serveur MCP, modèle, contexte, protocole, ce qui permet d'aller connecter sa base de Neo4j à des agents. Et donc on a des premiers utilisateurs qui essayent d'aller faire de la requête d'aller poser faire des questions en langage naturel sur la base. Bon, ça a ses limites, je pense qu'il y a un peu de travail à faire encore pour que ça marche. Chacun a son avis là-dessus, mais certaines entreprises utilisent déjà comme ça. Donc c'est...
Oui, parce que tu en as parlé tout à l'heure, pour requêter une base Neo4j, on utilise Cypher, qui est un langage qui est propre à Neo4j et qui est très puissant, mais aussi avec la puissance et la flexibilité via une certaine complexité.
C'est ça, les premières requêtes sont assez simples, hein. ça va se rapprocher de choses très proches du SQL avec des conditions, des matchs, des where, c'est des choses très, très très simples. Quand on veut commencer à avoir des requêtes en passe traversale, vraiment, là on commence à arriver sur des choses assez complexes et ça demande un investissement pour être capable de les faire. Une des raisons pour laquelle on travaille sur cette ontologie, c'est tout ce qui va être... LLM va être beaucoup plus efficace sur une ontologie bien spécifiée plutôt que sur des nœuds qui vont varier d'un fournisseur à l'autre. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on avance aussi dessus.
Et les serveurs MCP dont tu parlais, est-ce que c'est des serveurs MCP qui sont propres à Cartographie ou qui sont propres à Neo4j qui permettent du coup de requêter derrière le modèle sous-jacent ?
Pour l'instant, c'est ceux de Neo4j, donc c'est vraiment eux qui les maintiennent. Et donc, que vous utilisiez Cartographie ou Neo4j pour n'importe quel autre projet, c'est les mêmes. Il y a des questions qui se posent d'aller mettre en place une couche, en fait, un MCP spécifique à Cartographie, qui notamment viendrait nettoyer les requêtes, s'assurer que les nœuds, que la traduction se fait bien, que les requêtes soient pertinentes, et ce genre de choses. Mais on n'en est encore pas là, et... il faudra vraiment que ça rencontre un besoin. Aujourd'hui, c'est plus des idées et des réflexions parce qu'on entend parler partout. Donc forcément, ça vient infuser un peu dans les cerveaux. Comme il n'y a pas encore de réels besoins exprimés, pour l'instant, ça reste que des idées assez lointaines.
Et en parlant d'idées, je continue juste, j'essaie de tirer le fil. Est-ce que tout ce qui est SOAR, Security Orchestration, Automation and Response, on pourrait imaginer, par exemple, avoir des capacités serveur MCP qu'on pourrait interroger pour avoir des agents, IA qui tournent pour essayer de détecter, des nouvelles vulnes sur notre infra. C'est des possibilités, c'est des cas d'usage potentiels.
Moi, je voyais plus une connexion entre deux outils, mais je laisse répondre.
À titre personnel, laisser une IA faire de la réponse, je suis peut-être encore un peu vieux jeu et pas assez plongé dedans. Je suis toujours un peu sceptique. Une des premières pistes, moi, sur lesquelles je crois beaucoup, c'est d'aller faire des conseils de remédiation. Je pense, par exemple, pour des gens qui géraient en infrastructure as code, avec les modèles d'IA, c'est assez facile aujourd'hui d'aller recommander des changements dans du code Terraform pour, par exemple, un groupe qui n'aurait pas les bonnes permissions, une base de données qui ne serait pas chiffrée, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui seraient très faciles à mettre en œuvre. Enfin, très facile. Je m'avance sûrement un peu.
Ok, Jérémy, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ?
Je généraliserai peut-être un peu, parce qu'on parlait d'open source, tout à l'heure on parlait des contributeurs. C'est quelque chose que j'ai découvert chez Cartographie. Par exemple, la Fondation Linux propose des stages rémunérés pour travailler sur de l'open source. Donc c'est, en général, c'est différents projets qui postent ces offres. Il y en a deux qui ont été ouverts sur Cartographie. Il y a eu beaucoup de monde à postuler et il n'y a personne en Europe. Je pense, un, parce que c'est méconnu. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment des... On sait que c'est difficile aujourd'hui de trouver des stages ou de mettre un premier pied dans les domaines quand on sort d'école. Et je pense que c'est un bon moyen de s'entourer de gens qui sont compétents, en général, des gens qui ont envie, parce que les gens qui participent en open source, c'est souvent des gens qui ont envie et qui ont envie de transmettre. Donc je pense que c'est vraiment une bonne opportunité et qu'il ne faut pas négliger. Et ça gagnerait à être plus connu.
Bon, et bien, le message est passé. Merci Jérémy d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci aux contributeurs.
Avant de conclure, nous allons innover dans nos limites sécu avec cette minute fail qui nous a été proposée par un auditeur. Je vous la livre telle quelle. Bonne écoute.
Je vous raconte le fail qui, heureusement, aurait pu être bien plus grave qu'il ne l'a été. On remonte à quelques mois, avant que la situation géopolitique ne devienne encore plus tendue. La guerre en Ukraine battait déjà son plein, et depuis 2024, on martèle dans les milieux de la cybersécurité l'importance de la gestion des tiers. Vous savez, ces partenaires, sous-traitants, ou fournisseurs qui peuvent devenir des portes d'entrée rêvées pour un attaquant. Coucou Nideux. C'est dans ce contexte qu'une association d'industriels s'est fait pirater le compte mail de sa responsable. Et là, c'est le twist inattendu. L'attaquant, visiblement pas très au fait de la pépite qu'il venait de hacker, a utilisé ce compte pour envoyer des arnaques de cashback. Pas d'espionnage, pas de compromission de données sensibles. Juste une vague d'emails mal écrits qui promettaient des réductions sur des achats en ligne. Un peu triste, presque. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce compte mail avait déjà la confiance de tous les partenaires stratégiques. Si l'attaquant avait eu un minimum de lucidité, il aurait pu initier une attaque par rebond d'une efficacité redoutable, en se faisant passer pour un partenaire de confiance. Une occasion en or, manquée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le vrai fail, c'est qu'aucune communication n'a été faite après coup. Rien. Zéro alerte. Pendant 2 semaines, les personnes qui avaient reçu les emails frauduleux n'ont eu aucune info officielle sur ce qu'il s'était passé. Peut-être que certains se sont fait avoir. Peut-être pas. En tout cas, on les a laissés dans le flou.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.